cours de philosophie politique par le père Philippe à Rimont le 24 février 1989.
Arrivé à la question du bien commun et le point de vue chrétien, comment y a-t-il un bien? Est-ce que la foi transforme la question du bien commun? La foi, l'espérance et la charité. Vous comprenez bien. Alors, avant de traiter ça, on pose la question, dans la vie religieuse, on parle du bien commun qui est la sainteté. Nous avons donc un bien commun nouveau. N'y a-t-il donc pas une nouvelle prudence politique? Attention, attention. Dans la vie religieuse, nous sommes au niveau de la foi. Donc, la vie religieuse est dans la lumière du Christ et des vertus théologales. C'est donc dans la lumière des vertus théologales que nous essayons de découvrir ce que peut représenter le bien commun de la vie religieuse, qui est le Christ, qui est la sainteté, l'union avec Jésus. Là, je suis dans l'ordre, non pas humain, mais divin. Donc, je ne parlerai pas d'une prudence politique. Je parlerai d'une prudence chrétienne. Tout de suite. Alors, elle est politique, si vous voulez, parce qu'elle est les communes. Est-ce que le pape gouverne l'Église avec une prudence politique? Non. Il gouverne l'Église avec sa prudence humaine, informée par la foi, par la charité, sous la dépendance du temps de conseil. Une prudence informée par la charité. Donc une prudence qui regarde directement la béatitude surnaturelle. Qui regarde les moyens en vue de la béatitude surnaturelle. C'est ce que regardera toute autorité religieuse. Un prieur. C'est pas une prudence politique. Même chrétienne, c'est une prudence chrétienne, c'est-à-dire une prudence acquise et infuse, transformée par la charité, qui fait regarder tout directement en dépendance de la charité. Pour des religieux, c'est la charité qui commande tout. Donc c'est une prudence chrétienne, c'est ça que j'appelle la prudence chrétienne. Et cette prudence chrétienne regarde, puisqu'il a autorité d'une communauté religieuse, regarde le bien commun de tous les religieux qui lui sont soumis. Et tous ces religieux qui lui sont soumis sont tous des baptisés, sont tous des chrétiens qui vivent une vie chrétienne unie à Jésus, et qui ne cherche que la sainteté. Et donc la prudence du supérieur consiste à tout ordonner vers la sainteté. Directement. En respectant tout le point de vue humain. Le point de vue humain est assumé par la grâce. Mais c'est le point de vue, je veux dire, le point de vue chrétien. Le point de vue, oui, le point de vue humain est assumé par la grâce, puisqu'on regarde directement. C'est la finalité de la grâce. Mais le problème est tout à fait différent que lorsqu'il s'agit du problème que nous nous posons. Y a-t-il une prudence politique acquise, chrétienne, Mais il y a la différence du problème. Je crois que c'est très très important de bien regarder. C'est comme pour lui de l'obéissance. L'obéissance religieuse n'est pas une obéissance politique. C'est une obéissance religieuse. Elle est politique si on fait partie d'une communauté. Mais là, vous voyez, le mot politique là prend une signification tout autre. C'est plus du tout la même signification. C'est la prudence chrétienne quand on est soumis à une autorité chrétienne, l'autorité religieuse. Elle n'a rien à voir politique au niveau de la Sainte République française. Et Mitterrand n'a rien à dire. C'est sûr. Il n'intervient pas. On m'a posé la question l'autre jour. Alors ça aussi, c'était les interférences. Un supérieur aurait-il le droit de dire à ses religieux, ne votez pas. Élection municipale, ne votez pas. Je vous interdis de voter. Ça se pose. C'est un petit village comme ici. À Saint-Jonas, c'est la même chose. On forme un tel poids. Notre intérêt. Au point de vue de la commune, il est minime. Qu'est-ce que peut nous faire le maire de Flaix? Pas grand-chose. Oui, quand on doit acheter un terrain un peu plus loin là-bas. Alors là, à ce moment-là, le maire de Flaix peut mettre tout son poids, n'est-ce pas, sur la balance. Dire, je vous soutiens avec tous ceux qui sont avec moi au service de la France. Il fait un grand discours, mais il ne peut pas grand-chose. Et pour nous, pas grand-chose. Tandis que le fermier du coin, oui, on doit tenir compte de ça quand même. Le bien commun de la commune de Flaix. Qu'est-ce qu'on fait pour ce bien commun de la commune de Flaix? Pas beaucoup de visites de pauvres, pas beaucoup de visites de vieillards. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Alors, vous voyez? Alors, il y a deux extrêmes. L'extrême qui consiste à dire, vous voyez, oui, j'ai bien prié, oui, je suis sûr. Non, il ne faut pas qu'on vote. Eh bien, au chapitre, mes frères, ne votez pas, je vous interdis. Je vous interdis de voter, il n'a pas le droit. Sa juridiction de prieur, et la mienne aussi, hein, va pas plus loin. Non, non, je respecte votre droit de citoyen. Je le salue très bas. Et je lui dis, vous pouvez voter selon votre conscience. Je peux simplement dire au réfectoire telle ou telle politique, telle histoire de France, nuancée, orientée vers tel ou tel sens. Mais je n'ai absolument pas le droit de dire, vous devez tous voter dans le même sens. Peux donner un conseil. Je dis, vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai ma conscience. Le prieur a le droit de dire ça. J'ai ma conscience. Il est bien formé dans un domaine-là, vous savez, ça, c'est. Craignez pas. Si on insiste, dites-moi un peu ce que vous faites quand même, parce que. Moi, je sais pas du tout. On insiste. Si vous voulez, je vous le dis, mais ne révélez pas. Hein. Surtout, ne le dites pas. Alors, on peut le dire à ce moment-là, avec prudence. Ou bien on peut réunir quelques frères et discuter le coup. C'est possible, ça. Très bien. Ou faire venir de l'extérieur quelqu'un de très compétent qui verra la politique de la commune de Flaix. C'est très important pour la France. Donc il faut faire grande attention. Vous voyez, c'est qu'au fond, le droit que nous avons. Qu'est-ce que c'est quand vous votez? C'est un acte de politique. Vous êtes chrétien, vous le faites en chrétien. Est-ce que vous allez dire, je vais voter, mon acte, ce sera un acte de politique chrétienne? Si vous dites ça en prieur, je vais faire un acte de politique chrétienne en allant voter. Rirant, sourirant. Très bien, je vous donne la bénédiction. pour que cette politique chrétienne aille jusqu'au bout. Faites un acte politique, un acte de prudence politique humaine, en tant que chrétien. Je ne crois pas que c'est un acte de politique chrétienne. On va essayer de voir ça. Mais concrètement, quoi. Alors il peut se poser la question, si tout le monde vote, ça fait un vote massif. Douche d'eau chaude, je présume, ou douche d'eau froide. Mais, ou bien alors on va dire, la moitié de la communauté va voter pour un tel, l'autre moitié pour un tel. Comme ça s'annulera complètement. Et personne n'y verra rien. Et on pourrait dire, ah non, non, on n'a absolument pas influencé. Tant de votes pour les uns. Puis comme il y a 3, 4, plusieurs candidats, on divisera. Puis on dira, vous votez pour ça, vous votez pour ça. Alors ça, c'était liquidé. Sœur Marie, Bethléem, une fois, m'avait demandé de voter, de faire une conférence pour orienter le vote. Et je dis, ah non, pas d'orientation de vote. Surtout pas. Non. Je peux parler au plan politique avec toutes mes incompétences, mais uniquement ce que j'entends, l'expérience qu'on a. On a tous quand même une petite expérience politique. Tous. On a tous des opinions. Oui. Très bien. Pas plus. Mais on peut se poser la question, et même c'est bon de se poser la question. Vous voyez? Un petit village comme ça, est-ce qu'il faut tous nécessairement voter? On peut s'abstenir. On peut être très bien de ne pas voter. Il y a un problème, prudence humaine. Prudence politique humaine. Bon. Alors, nous revenons à notre sujet. Alors, si quelqu'un a une petite question. N'est-ce pas à partir du bien commun que l'on peut voir s'il existe une politique chrétienne? Oui, c'est pour ça qu'on se pose la question, y a-t-il un bien commun chrétien? Parce que par là, on voit tout de suite par le point de vue politique, par le point de vue, je veux dire, prudentiel, par le point de vue prudentiel, que vous voyez tout de suite s'il y a un bien commun. Et par là, la réflexion. Peut-on dire qu'il n'y a pas de politique chrétienne si l'on regarde la cause efficiente du bien commun, la coopération, la cause matérielle du bien commun, l'ensemble des biens matériels, nécessaires au corps, au support de la transmission du bien spirituel, peut-on dire qu'il y a une politique chrétienne du point de vue de la cause finale, qu'il y a une politique chrétienne, la cause finale du bien commun, la personne dans toutes ses dimensions, dans la mesure où la personne chrétienne a une finalité surnaturelle et où la fin et principe de l'ordre de ses activités s'incarne dans un programme de vie où la vie oriente l'usage du bien matériel, où la fin oriente l'usage du bien matériel, la cause formelle du bien commun, ordre du bien matériel et spirituel. Peut-on dire qu'à cause de la priorité de la cause finale, la personne, sur les autres causes, il y a bien une politique chrétienne. En quoi consiste le renouvellement chrétien de l'ordre temporel et de l'usage du monde, dont parle le Concile Vatican II, apostolat laïque, et ce dont parle le Saint-Père pour le synode des laïcs. Bon, alors, toute la question est là. C'est vrai? Le bien commun. Peut-on dire bien commun chrétien? C'est très difficile, hein. Vous écrirez à l'homme nouveau, article sur le bien commun nouveau, sur le bien commun chrétien. Faites attention, hein. D'avance, je dis que ce serait souverainement imprudent. Bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Toute la question est là. Le bien commun, Il est fait par 1, 2, 2 amis qui s'aiment et qui travaillent ensemble. Est-ce que c'est un bien commun? Un ami, tous les deux. Pour que l'amitié soit forte, il faut une œuvre commune. Est-ce que cette œuvre commune est un bien commun? Là, non. C'est pas un bien commun. Le bien personnel de l'ami est à l'ami. Son bien personnel, ça reste personnel. Dans une communauté, c'est très net, hein? Vous voyez, deux personnes qui s'aiment beaucoup. Bon, ils peuvent travailler ensemble. Il y en a un qui est très fort en thème, l'autre très fort en version. Transposé symboliquement au plan philosophique. L'un est excellent en éthique, l'autre en métaphysique. Donc, quand ils lisent une œuvre d'Aristote ensemble, le dit animant. Ils lisent ensemble le dit animant. L'un le lit avec la lumière éthique, l'autre avec la lumière métaphysique. Ils peuvent faire quelque chose d'excellent. Alors, cette œuvre commune est-elle une œuvre? Est-elle un bien commun? Non. C'est un bien personnel. Ils peuvent le faire en vue d'une communauté qui est la leur. Voyez, le gros monstre. Oh, il y a tous les petits piétons là. Puis les deux. Alors ils peuvent faire cette œuvre commune. Là. Faisons une œuvre excellente. On va la mettre à la bibliothèque, à l'usage de tous. Le jour où vous le mettez à la bibliothèque, à l'usage de tous, ça devient du bien commun. Quand vous l'avez fait, c'est un bien personnel. Tout ce que l'ami fait, il est un avec son ami. Donc, c'est l'œuvre personnelle des deux amis. C'est pas un bien commun. C'est pas, je veux dire, oui, c'est pas un bien commun au sens strict. Vous allez me dire, mais dans le mariage, on dira, l'enfant, c'est l'œuvre commune de l'époux et de l'épouse. Ils s'aiment et ça vient commun. Est-ce que l'enfant est un bien commun? On le dit couramment, mais est-ce que c'est vrai? Bien non, c'est pas un bien commun. C'est un bien personnel du père et de la mère. C'est pas un bien commun. Bon, une personne peut-elle être bien commun? Non. Personne n'est pas un bien commun. Ce serait oublier que la personne est un sujet irréductible, qui a sa propre finalité, qui n'est pas un bien commun. Même un orphelinat. Appelle voisin. C'est pas le bien commun. On a des sujets, des personnes humaines. Il peut y avoir un bien commun. Mais les personnes qui font partie de la communauté, même si de fait elles sont incapables de pouvoir poser des actes quelquefois libres, donc de citoyens, c'est quand même une personne, en vue d'une personne. Alors qu'est-ce que c'est que le bien commun? Oui. Mais tout de suite en dehors. Les limites du bien commun. Situation limite. Hein? Quand ces deux personnes, qui sont deux amis, c'est une œuvre personnelle. Ah, je crois qu'il faut dire ça. Et l'enfant est une œuvre personnelle. À cause de l'amour d'amitié. Qui fait que ça devient une œuvre personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est commun. Le bien commun est donc l'œuvre de trois. trois qui travaillent sur le même métier, à des heures successives. Ou bien trois métiers qui peuvent faire quelque chose qui fait que c'est commun. Peu importe, c'est la division du travail qui importe peu ici. Il faut trois. Alors qu'est-ce que c'est que le bien commun? Le bien commun, c'est nécessairement une œuvre commune à trois. Donc une œuvre temporelle ou spirituelle. Le travail du dianima, c'est spirituel. C'est de la philo, donc philosophique. Ou artistique. Et c'est un bien commun. Pourquoi? Parce que ce n'est ni le bien de Pierre, de Jacques et de Jean. C'est les trois qui concourent à ça. Donc c'est vraiment un bien commun. Ce bien commun appartient à chacun et chacun peut en user. Et alors voilà que tout d'un coup, il y en a un qui en use beaucoup plus que l'autre. Alors les deux autres vont se réunir et dire « Ah, c'est pas juste !» Tout de suite la justice, une justice distributive, qui va entrer dedans. Et on dira « Il faudra établir des lois. » Dès qu'on est trois, tout de suite. Quand on est deux, il n'y a pas besoin de loi. On se dispute un bon coup, mais il n'y a pas besoin de loi. On dira à l'ami, mais non, tu exagères. Et si tu continues comme ça, tu peux plus être ton ami. Donc on ne sait pas. Rien du tout. Et si on continue d'être amis, on s'arrange. Sans la justice. Mais si tu n'es plus mon ami, c'est la justice. Alors il y en a un troisième larron qui viendra pour faire la justice. On ne peut pas la faire à deux. Puisque c'est brisé l'amitié. Donc il faut un troisième. On ne peut pas être autrement. Et là, à ce moment-là, on tombe sur le point de vue de la justice. Et le bien commun est toujours sur le point de vue de la justice. Alors que l'œuvre commune des amis est une œuvre qui est au-delà de la justice. C'est le bien personnel des deux amis. Mais là, il y a quelques éléments qui me semblent suffisamment net et important. Hein? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, notez votre objection. Hein? On la verra la fois prochaine. Parce que ça met du temps une fois. Parlez-en entre vous. Vous essayez de comprendre ça. C'était très important. On ne définit jamais ce que c'est que le bien commun. Jamais. On en parle tout le temps. Alors, ça vient de la tarte à la crème. La tarte à la crème, par définition, n'est qu'un aspect du bien commun. C'est pas le bien commun. Il faut un peu plus que la tarte pour que ce soit le bien commun. Alors, vous avez donc cette œuvre commune, temporelle ou spirituelle, peu importe, qui est le fruit du travail des trois. Pour moi, c'est pas nécessairement à égalité, c'est pas important du tout. Il peut y avoir un jeune, un moins jeune et un vieillard sont trois. Il n'y a pas d'égalité. Pas du tout un principe du bien commun que on est travaillé de la même façon, pas du tout. Aucune espèce d'importance. C'est variable. Le bien commun est quelque chose qui est mis à l'usage des trois proportionnellement en fonction de leur travail. La justice règne. Et dès qu'il n'y a plus cette proportion-là, on réclame. Donc, c'est mis à l'usage. C'est pour ça que ça ne peut pas être une personne, vous voyez. Le bien commun, on en use du bien commun. Et on en abuse. Pour pouvoir en abuser, il faut en user. Donc, c'est jamais une personne. C'est toujours le fruit d'un travail qui est mis au service. Le bien commun n'est jamais une donnée première. et l'occupation d'un terrain, l'occupation de la lune, la donner. Non, c'est le fruit d'un labeur. Alors évidemment, la terre qu'on aura occupée à plusieurs et qu'on aura exploitée, le bien commun commence. Vous voyez? Si vous avez planté un certain nombre d'arbres ensemble, le bien commun commence avec l'exploitation de ces arbres. La terre elle-même, toute seule, non. Oui?
Est-ce que le bien commun peut se réduire à l'œuvre commune?
Non, pas entièrement. Sûrement que le bien commun, parce qu'il peut y avoir, vous voyez, dans cette œuvre commune, si vous supposez la matière première, oui. Oui. Parce que la matière première n'est pas épuisée par l'œuvre. Une propriété que vous travaillez ensemble, à plusieurs, cette propriété a plus value grâce au travail. Et elle est impliquée dedans. Donc il y a une mise, il peut y avoir une mise en commun première, qui n'est pas l'œuvre, mais qui est en vue de l'œuvre. Oui. Si elle n'était pas en vue de l'œuvre, je crois qu'elle ne ferait pas partie du bien commun. Oui. Celui-là a un gros héritage. Il en garde une grosse partie. Il en met comme bien commun cette grosse partie et son bien individuel. Il ne fait pas partie du bien commun. Tandis que s'il y a un contrat, là, ça dépendra du contrat. Vous voyez, le contrat vient après. La mise en commun, la mise en commun de chacun. Si un enfant, elle semble très très différente, cette mise en commun. Cette mise en commun en vue d'une œuvre qu'on établit ensemble. Vous voyez? Et c'est évident, l'aspect formel du bien commun, c'est le fruit, c'est l'œuvre commune. L'autre, c'est un aspect matériel. Une mise au fond. Oui. Qui est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas ça, qui est nécessaire à cause du travail. Oui, parce que le travail impliquant toujours une matière. Donc, c'est impliqué dans l'œuvre commune. Mais ce n'est pas la même chose. Et tous les litiges viendront là-dessus. Très souvent. Oui. Parce qu'on dira qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est en dehors du bien commun. Réclamant vite ses droits. Or, quand il s'agit de l'œuvre commune, on n'a pas de droit particulier, c'est le tout. Alors, que représente au point de vue finalité le bien commun? Puisqu'on dit, c'est une finis effectus, le langage scolastique. C'est un effet, c'est une fin. C'est une fin parce que dès qu'il y a un bien commun, on doit le garder et permettre à ce bien commun d'aller plus. C'est, voyez, mais alors, voyons bien, on use du bien commun. Est-ce que le bien commun vraiment finalise l'homme? Non. Parce que la fin propre de chaque homme, c'est l'amour ou la contemplation. Et donc, c'est individuel, ce n'est pas commun. Donc, cette fin effectus, en tant qu'effet, la fin devient un moyen. Elle est relativisée parce qu'elle est réalisée par l'homme. Elle ne s'impose pas à l'homme comme quelque chose qui est antérieur à l'homme, comme une véritable finalité. Je crois que c'est uniquement un moyen plus ou moins privilégié, plus ou moins important. C'est peut-être un patrimoine, vous voyez, quelque chose qu'on a reçu depuis longtemps, c'est un bien commun de la famille. Et on dira, c'est un bien commun de la famille, ça. Et on ne veut pas le diviser, parce que ça n'irait plus. C'est bien commun de l'Église, c'est bien commun d'une communauté qui dure. La question du temps vient donner la chose. Donc, c'est un effet dont on use, donc l'usage, on regarde le point de vue du bien, Est-ce qu'on jouit du bien commun? Oui, on peut en jouir. Mais encore une fois, comme un moyen délectable. C'est une propriété, on en jouit. Mais c'est pas du tout le bonheur. Le bien commun ne peut pas donner le bonheur personnel. Impossible. Le bien commun permet un épanouissement individuel, mais ne donne pas le bonheur. C'est de l'ordre du moyen. Moyen intellectuel, moyen spirituel, mais moyen. J'ai fait ce travail pour vous. J'ai fait ce travail pour la communauté. Je me suis levé plus tôt parce que je me suis dit que ce journée-là, on n'aurait pas le temps. Et je vous donne des petits pains chauds dès votre lever. J'ai fait ce travail en plus pour la communauté. Oui, comme un bien pour tous. Ça arrive, ça. La générosité à l'intérieur de la vie commune. Et ceux qui se lèvent plus tôt, comme les saintes femmes de l'Ancien Testament, et avant que le mari se lève, elle est déjà levée pour tout préparer, pour tout arranger. Avant que la communauté des frères se lève, toutes les sœurs sont déjà à la cuisine en train de faire. Mais c'est ça, c'est le bien commun. Et là, les usagers du bien commun, ceux qui sont source de ce bien commun et l'enrichissement du bien commun. On achète une machine qui va plus vite, et ainsi de suite, voyez. Bon, ça grossit. Bon, alors, c'est vrai, l'usage. Et, en définitive, le bien commun est pour la perfection de la vie commune. La vie commune n'est pas le bien commun. La vie commune, c'est autre chose. C'est l'usage qu'on se fait du bien commun. Et ce bien commun est pour que la vie commune soit plus délectable, pour que la vie commune soit plus parfaite, pour que la vie commune permette une parfaite entente. Le bien commun est pour cette parfaite entente. Et d'une certaine manière, cette parfaite entente fidélise le bien commun. Oui. Une concordia, une bonne concorde, bonne entente, bonne confiance. Les biens matériels qu'on a sous la main permet une bonne confiance. Il n'y avait pas du tout de bien commun, on ne sait pas. C'est pas du tout si on pourra vivre jusqu'au soir. Tandis que là, on vous ouvre. Vous voyez, regardez, il y a des réserves. Toute cette armoire de confiture, au moins, on pas encore mauvais, bien commun. On a préparé la fête, 2 jours d'avance. Et tout est bien. Il y a des souris qui sont venues entre deux. Parce que dans le bien commun, il y en a toujours quelques-uns qui abusent. C'est pour ça que très vite, on mettra des gendarmes dans le bien commun. Pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y a personne qui, la nuit, subrepticement, viennent prendre qui est quelque chose contre le bien commun. Et alors on peut dire, je pense aujourd'hui, je suis affamé, mais demain je travaillerai pour le bien commun, le temps d'heure du bien que j'ai pris. Ah, c'est très bien. Je le dirai pas, parce qu'on ne peut pas savoir que c'est moi qui ai pris. On croira que c'est bénévole. Mais en réalité, c'est la justice. Pas obligé de le dire. Mais dans ma conscience, je me pèse ma conscience comme ça. Oui. Donc, il y a le point de vue de l'usage qui est moral et la bonne entente qui est morale. Donc le bien commun touche le point de vue moral. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que la foi, est-ce que la grâce chrétienne va modifier le bien commun de l'homme? Le bien commun politique. Je précise. Bien commun politique. Hein. Vous voyez que le bien commun politique pourrait être transformé par le point de vue de la foi, par la grâce chrétienne, uniquement du côté de l'usage et du côté de la bonne entente, la concordia. Là, je retrouve un point de vue éthique. En face d'un point de vue éthique. Tout ce qui est éthique et volontaire peut être transformé par la grâce. Mais est-ce que c'est ça qui constitue le bien commun? Non, c'est l'usage du bien commun. C'est l'usage. Et c'est ce pourquoi le bien commun existe, donc la finalité. C'est pas le bien commun en soi. Le bien commun en soi étant une œuvre temporelle ou spirituelle, mais humaine. Mais pas par lui-même chrétien, est humain. Mais l'usage peut être changé par le point de vue chrétien. Je me souviens d'une réflexion qui existait en Suisse. J'ai des familles protestantes, très très, les gros trusts familiales, quelques familles protestantes suisses, qui avaient toujours des domestiques catholiques. Parce que on était plus sûrs. C'était très joli. J'ai vu ça, je l'ai vu. Hein. Je l'ai constaté. Que... Et ils m'ont dit, du reste. Ils m'ont pas caché. C'est du reste un qui était devenu catholique qui m'a dit ça ouvertement. Alors voyez, là, vous voyez le bien commun d'une famille importante. C'est un bien commun. Familial. L'usage. Servir de tel ou tel. Bon, change en fonction de la religion. On a donc choisi tel ou tel. Il y a une interférence religieuse, une interférence chrétienne. La prudence politique de celui qui gouverne cette famille et qui choisit un catholique et non pas un protestant. Il y a donc plein de petites modalités. Il y a un petit quelque chose. Il fait ce choix dans une prudence. Il tient compte de ça. Est-ce que cette prudence est modifiée ou c'est tout à fait matériel? Comme vous choisirez une auto d'une meilleure marque, il y aura moins d'accidents. C'est plus sûr. La Mercedes est plus sûre, vous savez. La voiture française, oh. Ça ne tient pas. Donc on choisit ça. C'est une question de prudence. Est-ce que ça change la prudence en faisant que ça devienne une prudence politique chrétienne? Pas du tout. Pas du tout. C'est une marque. Plus sûr. On est plus sûr là-dessus. Pas plus que ça. C'est le choix de ses moyens, donc. C'est vraiment la marque. Le fabrique. Qui joue. Pour qu'il y ait prudence chrétienne, prudence politique chrétienne, il faudrait que la finalité change. Alors, c'est là où c'est très délicat. Puisque l'usage est en vue de la finalité. Et l'usage change, pas quand il s'agit de marque de produit. C'est une marque de produit, c'est simplement une information nouvelle, vous voyez. Et si l'information changeait, si au bout de quelques années on dit « Ah non, mais les catholiques ont complètement changé, ils sont devenus maintenant tous des progressistes, c'est beaucoup moins sûr que ces protestants conservateurs, oh alors là, c'est admirable, avoir une confiance absolue dans ces protestants conservateurs. Tandis que ces catholiques progressistes, aucune confiance, oh là là là. Oui, avant, en France, il y avait des catholiques auxquels on pouvait compter, oh, surtout en Alsace, oh là là, c'était parfait ça. Et tandis que maintenant, on ne peut plus compter dessus. Oh là là, les Bretons, dès qu'ils sont en dessous, on ne peut plus compter du tout dessus. Et alors on changera la marque. Mais qu'en réponds-tu ? Alors on change. Avant c'était très solide, maintenant c'est plus solide du tout. Donc vous voyez, c'est pas la prudence chrétienne. C'est tout simplement, on est prudent humainement, on connaît, la formation est bonne, on sait que telle chose, on peut compter dessus, telle autre chose, on peut compter dessus. Donc, pour qu'il y ait prudence politique chrétienne, il faudrait que la finalité chrétienne vienne modifier l'usage du bien commun. Il me semble. Et est-ce que c'est suffisant? L'usage du bien commun peut être modifié en fonction de la foi qui me dit je dois faire carême. L'économie française, pendant le carême, diminue de 10%. Or, on est en temps de crise, on a demandé à tous les évêques supprimer absolument le jeûne du carême parce que ça fait une baisse venue. Que répondra l'évêque? Donc, non, ça n'a rien à voir avec ça. Il vaut mieux que la crise augmente et que les chrétiens soient plus fervents. Et vous verrez après Pâques, ou alors là, ce sera la fête. Et là, ça reviendra avec énormément de choses. Donc, à ce moment-là, question d'usage, c'est tout, selon le temps. Et ça ne modifie rien du tout. Je prends ça, prenez les lois scolaires. C'est très très curieux. C'est pas toujours commode à bien cerner. Je pourrais prendre ces gros exemples, parce qu'alors là, ça illustre. Un exemple, c'est fait pour illustrer. Donc, ça vient tout de suite en vedette des choses. Je me pose la question. Mais, puisque on est en face de cette œuvre commune, de ce bien commun, et de ce bien commun dont on a l'usage en vue d'une certaine fin. Et la politique consistera dans sa prudence politique de faire que le bien commun d'un pays progresse et ne diminue pas. Progresse tant au point de vue spirituel, point de vue artistique, c'est le patrimoine qui progresse, et non, ne diminue pas. Et donc, les lois seront données en vue de ce bien commun qui doit progresser. Et en vue de l'usage de ce bien commun. Alors, est-ce que la fin ultime chrétienne, la béatitude, la vision béatifique, va modifier l'usage? Oui. Ça peut modifier l'usage. Je vous donne exprès l'exemple du carême. Dans un pays où le carême serait parfaitement fait, je suis persuadé au point de vue du budget alimentaire, en disant, la différence entre le carême et le non-carême. Et donc, on dirait, bon, il faudrait que ce soit pendant toute l'année carême, comme ça on pourrait faire un équilibre de budget, dès qu'on n'y arrive pas autrement. Alors, vous voyez, un État purement, entièrement chrétien pourrait dire, mais oui, il y a donc une politique chrétienne par rapport à l'usage. Est-ce que l'usage spécifie le point de vue prudentiel? Mais on touche là quelque chose de très très délicat. Moi, je crois, modifie, mais ne spécifie pas. Est-ce que vous userez toujours de la même façon de lentilles si vous êtes chrétien ou pas chrétien? Il y aurait une réminiscence si on est chrétien, le plat de lentilles. C'est sûr. Chaque fois qu'on vous sert des lentilles, vous pensez aux trois d'aînesse. Hein, c'est sûr. Alors, ça vous fait une réminiscence. Mais ça modifie le conditionnement, ça ne spécifie pas. L'usage ne spécifie pas. Oui.
Dans le contexte des inégalités internationales,
oui.
Le Saint-Père notamment dit que les riches doivent donner,
oui.
Et qu'on doit être capable de donner jusqu'au nécessaire.
Oui.
Est-ce que là, il n'y a pas un dépassement d'une prudence simplement humaine? Et que dans ce cas-là,
sûrement.
Les riches pourraient avoir une politique qui dépasserait le point de vue d'une prudence humaine.
Faites attention. Ça dépasserait. C'est une question de l'usage. La production. La question d'usage. Est-ce que l'usage va faire une nouvelle politique, une nouvelle justice, une nouvelle prudence? La prudence implique l'usage. Mais la prudence est spécifiée, nouvelle, par la finalité. Or, la foi n'intervient pas directement, la fin ultime n'intervient pas directement sur cette œuvre commune qui est le bien commun. Je pourrais l'utiliser différemment. Et je ne crois pas que l'usage va donner la spécification d'une prudence chrétienne. C'est assez délicat, hein. Je crois que c'est intéressant de poser le problème.
Dans l'exercice, un chef d'État pourrait, un État chrétien,
oui.
pourrait dire, bien nous allons nous priver.
Mais c'est bien, c'est carême, et bien tout bénéfice de l'État à ce moment-là, toutes les choses, je demande à toutes les familles de donner tant, s'imposer tant, pour les pays pauvres. Alors, est-ce qu'il y a vraiment prudence politique chrétienne à cause de ça? Oui. Je dis, c'est l'usage. Sûrement que du côté de l'usage, c'est donc une question d'exercice, une question de modification, c'est pas de spécification. Parce que vous avez toujours ça pour que l'homme puisse vivre et survivre. Vous donnez pour que l'homme puisse se développer plus spirituellement. Au point de vue artistique, au point de vue intellectuel. Mais ce n'est pas une modification au point de vue politique, c'est-à-dire des constitutions. Qu'est-ce que c'est que le formel de la politique? C'est la constitution. C'est ça le formel. Et c'est là où la prudence est spécifiée par le point de vue du régime politique. Le point de vue du régime politique. Alors y a-t-il un régime chrétien catholique politique? Il peut y avoir des aspirations, des appels. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une spécification. Parce que la finalité chrétienne, alors ça c'est la raison philosophique, la finalité chrétienne transcende complètement le bien commun. Le bien commun comme tel demeure immanent à la société humaine. Le bien commun comme tel n'est pas baptisable. Un escapax. Qu'est-ce qui est baptisable? C'est les individus et les personnes. Le bien commun n'est pas baptisable. Si le bien commun n'est pas baptisable, la prudence politique n'est pas spécifiée par le point de vue chrétien. Et c'est là où il faut l'argumentation. Parce que l'usage donnera l'impression, vous voyez, que ça change. Une générosité purement humaine pourrait faire exactement la même chose. Une simple justice, quoi. soyons justes, on est frères dans l'humanité. S'il y a des frères qui meurent de faim et que vous avez trop, immédiatement, faites que tout ce qui est trop aille de l'autre côté. Ça, c'est une justice humaine. Et donc, ça relève directement d'une politique humaine. Étant donné qu'aujourd'hui, on sait qu'une politique humaine n'est pas enfermée dans un pays, elle est interplanétaire. Elle est mondiale. Donc elle doit regarder ça. Vous voyez, il n'y a rien de spécifiquement chrétien. Le point de vue chrétien donne une motivation nouvelle, mais pas spécifiquement chrétien. Parce que le rapport entre le bien commun qui est immanent et la fin ultime transcendante, il n'y a pas de commune mesure. Vous voyez ? Autrement dit, hein, on reprendrait le problème comme ça. Et vous voyez, tous les passages un peu fallacieux. Hein, c'est... Autrement dit, quelle différence y a-t-il entre la vertu de tempérance transformée par la charité et la prudence politique à l'égard de la charité? Tout est là. Vous parlez d'une éthique chrétienne, parce que l'éthique chrétienne, c'est une éthique personnelle. Et c'est la personne qui est baptisable. Immédiatement. Le point de vue politique, c'est bien la personne aussi, hein, qui est engagée. C'est sûr. C'est un acte volontaire. Mais, il y a le point de vue du bien commun. Qui est entre les deux. C'est pas une fin immédiatement personnelle. Le bien commun ne m'engage pas immédiatement comme personne, mais comme partie de la communauté. Et ça ne me regarde que comme partie de la communauté. Est-ce que vous êtes baptisable en tant que partie de la communauté? Je fais partie d'une communauté chrétienne, je vous en supplie, baptisez-moi. Ils sont tous chrétiens autour de moi, il faut bien que je sois chrétien. Ce n'est pas un motif suffisant. Il n'y a pas un choix personnel. Et donc, le bien commun, vous voyez, la prudence politique qui regarde le bien commun n'est pas immédiatement baptisable, n'est pas immédiatement changé par la charité. Il me semble, hein, je dis il me semble parce que c'est des données très difficiles. La tempérance est informée par la charité. Est-ce que je peux dire que la prudence politique est informée par la charité? La prudence est informée par la charité, la vertu de prudence, est informée par la charité parce qu'il y a une nouvelle fin pour l'exercice de la prudence. Je jeûne. À cause de la charité, je fais sérieusement mon carême. Ah, je vous affirme. Je le fais sérieusement, à cause de la charité. Et donc, la vertu de tempérance regarde différemment la mode de beurre et la confiture au petit déjeuner, si je fais sérieusement mon carême, que si je ne le fais pas. Pourquoi? En vue de ma fin ultime, qui spécifie directement, qui ordonne directement l'acte de tempérance. Ma fin ultime, elle est propre à ma personne. La fin ultime n'est pas propre au bien commun. Elle n'informe pas le bien commun. Elle modifie l'exercice uniquement. Alors voyez, si je suis devant une philosophie uniquement de l'exercice, la fémologie, je ne vois que l'exercice, je ne vois pas du tout la spécification. Il n'y a pas d'analyse philosophique. Alors à ce moment-là, j'aurais toujours la tendance de dire qu'il y a une politique chrétienne. Parce que il y a des motivations chrétiennes qui font donner plus, qui font des œuvres de charité. Vous voyez, dans le bien commun, il y aura un budget qui augmentera pour les églises, pour les patronages, pour les hôpitaux, pour tout ça. Sous la motivation du point de vue chrétien. C'est pas une politique chrétienne, ça. C'est une politique attentive aux besoins des chrétiens. Je crois que ce serait la même chose pour l'école. L'école libre, l'école nationalisée. Et on dira tout de suite ça, vous voyez. Il y en a eu le souci de préciser ça. Et puis dire l'école libre, c'est l'école chrétienne. Non, non. L'école libre est plus vaste. C'est un certain groupe de gens à l'intérieur de l'État qui en prennent la responsabilité. Et ce sont les familles. Et c'est plus juste. Les familles ont un droit à l'intérieur de l'État d'éduquer leurs enfants comme ils le veulent. Comme ils ont le droit d'éduquer leurs enfants comme ils le veulent, ils peuvent demander à l'État de sauvegarder cette éducation-là.